Bonjour Brigitte Durutier.
Bonjour Marianne.
Vous êtes en France, hein, on doit le dire aux gens qui nous écoutent, dans le sud-ouest de la France. Est-ce qu'il fait beau là-bas?
Ah, il faisait très bon jusqu'à présent, c'est plutôt une vingtaine de degrés, donc j'ai quand même le feu dans la cheminée là ce soir.
Ben, on vous envie pas trop Brigitte, parce qu'ici à Montréal, il fait très beau aussi pour un 3 novembre. On se considère très, très chanceux. Brigitte, on vous reçoit aujourd'hui parce que vous venez, on vous parle en fait, parce que vous venez tout juste de sortir un livre aux Éditions de l'Homme, Vivement lundi, comprendre le stress pour être heureux au travail. Et vous en parlez justement de l'épuisement professionnel dans ce livre-là. Vous dites, le syndrome d'épuisement professionnel pourrait être expliqué comme la maladie de l'engagement, la maladie des gens passionnés qui visent la perfection et poussent la performance ou le souci des autres au-delà des limites. Le diagnostic est assez simple. J'ai donné trop et trop longtemps. C'est, selon vous, ce qui explique en partie l'épuisement professionnel, Brigitte Durutier?
Oui, tout à fait. Ce qu'on voit, hein, contrairement à la dépression, c'est que le burn-out, c'est vraiment la maladie des gens qui surperforment, donc qui n'arrêtent pas, qui ne peuvent pas renoncer à quelque chose. Donc, ce que j'entends très souvent de mes clients, c'est « je peux pas faire ça à mes équipes » ou « je peux pas faire ça à mes collaborateurs ». Donc, on ne peut rien laisser tomber. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait? On a beau avoir énormément de charges sur les épaules, on continue à prendre plus et encore plus et encore plus, jusqu'au jour où on explose en plein vol.
Oui. Le stress, bon, il est dans plusieurs facettes de nos vies, notamment au travail, mais ça peut prendre plusieurs formes et c'est peut-être pour ça que parfois on a de la difficulté à le reconnaître dans notre quotidien.
Oui, parce que, alors d'abord, ce mot de stress, c'est un mot qui est très, très usité et on ne sait pas toujours très bien quoi y mettre derrière. Donc c'est important, moi je prends pas mal de temps dans le livre à expliquer ce que c'est le stress pour qu'on puisse le reconnaître, parce que c'est la toute première chose qui va nous permettre de mieux fonctionner. C'est vraiment pouvoir reconnaître, et il prend trois caractéristiques. La première, ben, ce sont tous les états d'inquiétude, d'angoisse, de peur. Donc c'est tout ce qui est lié à la peur. Donc un tout petit peu, ça donnera de la crainte ou une petite inquiétude, et beaucoup, ça donnera des états de panique.
Ouais.
La deuxième forme que peut prendre ce stress, c'est complètement différent, c'est tous les états de tension, les états de nervosité, d'irritation, d'agacement, qui peuvent aller, quand le curseur est très fort, ben, c'est jusqu'à des grosses colères, vous voyez, des moments où on est vraiment on est hors de soi. Ça, c'est une deuxième caractéristique du stress. Mais la troisième façon dont s'exprime le stress, et sans le néglige souvent, ce sont tous les états de tristesse, donc un état où on se sent pas bien, démoralisé, on est démotivé, on voit pas comment s'en sortir, on voit pas comment ça va aller. Et ce type de stress-là, qu'on appelle un stress d'inhibition, nous mine tout autant que les états de tension ou les états d'angoisse.
Oui. Je pense que, et vous me corrigez si je me trompe, Brigitte, le principal problème, c'est le stress chronique. C'est ce qui peut devenir assez dangereux et nous rendre malades.
Oui, oui, tout à fait, parce que être stressé, c'est pas gênant en soi. Ça, c'est un phénomène naturel. Un petit coup de stress, ça va nous faire avancer, ça va nous faire monter plus haut en haut d'un arbre ou fonctionner plus vite au travail. Ce qui est vraiment problématique, c'est quand nous vivons sous stress, c'est que ça devient un mode opératoire, ce qu'on appelle le stress chronique. Donc si toute votre vie est faite dans ces états de tension ou dans ces états de démotivation ou ces états de peur, ça devient vraiment problématique et on peut développer un tas de maladies derrière. Et ça nous empêche surtout de penser de façon saine, puisqu'on est tout le temps le nez dans le guidon, est tout le temps dans un état d'urgence. Donc du coup, on consomme sa vie sans pouvoir prendre de recul ou sans pouvoir profiter pleinement de ce qu'on est en train de faire. Et c'est là qu'on perd sa joie, c'est là qu'on perd vraiment son engagement et la possibilité de pouvoir jouir et de pouvoir vraiment profiter de la vie.
Mais parmi les symptômes à ne pas ignorer, est-ce qu'on pourrait se dire, est-ce que je suis heureux? Est-ce que, bon, aujourd'hui, on parle du milieu professionnel, est-ce que je suis heureuse au travail? Et si la réponse est non, aller interroger notre degré de stress?
Oui, parce que une personne qui n'est pas heureuse au travail, mais qui n'est pas stressée, vous dira, elle vous fera un constat en vous disant, voilà, je constate, je vois que mon métier ne me plaît pas ou qu'il y a trop de pression ou j'ai pas les responsabilités que je veux ou je m'épanouis pas. Donc elle va d'abord commencer par faire un constat qui est assez neutre, qui est non émotionnel. Et puis la personne vous dira, mais voilà, pour l'instant, je peux pas changer parce que j'ai d'autres urgences à côté, mais dès que je peux, j'irai chercher autre chose ou je vais parler avec mon associé, mon patron, mon chef. Et la personne, on va voir qu'est-ce qu'elle peut faire compte tenu de la situation dans laquelle elle est. Et elle va se mettre en chemin pour changer soit quelque chose dans son travail, soit pour en trouver un autre. Mais quand on est stressé, on n'arrive pas à faire ce constat. On va se dire qu'on n'a pas le choix. D'abord, c'est vraiment la première caractéristique. Sous stress, on se dira, oui, mais j'ai pas le choix, je peux rien faire, de toute façon, ça dépend pas de moi. Et on a l'impression qu'on est enfermé dans une situation sur laquelle on n'a absolument pas de maîtrise. Donc, c'est intéressant de se dire que quand on est convaincu qu'on n'a pas le choix et qu'on n'a pas de maîtrise et qu'on peut rien faire, c'est pas qu'on peut rien faire. C'est qu'on est stressé.
Ouais, et qu'on ne voit plus ce que l'on peut faire. Et il y a un passage très intéressant parce que vous vous intéressez à tout ce qui est l'approche neurocognitive, Brigitte Durruty, donc l'impact du stress sur le cerveau. Et vous dites, lorsqu'on est stressé, on n'a plus accès à la partie intelligente de notre cerveau, donc on n'arrive plus à réfléchir et à prendre du recul. Bon, vous dites aussi, c'est pas si mal. En fait, vous ne jugez pas, c'est pas bien, c'est pas mal. Mais moi, en lisant ce passage, je me disais, oh, mais à quel point le stress peut m'empêcher de prendre de bonnes décisions?
Oui, et je pense que c'est vraiment l'élément central que j'ai voulu transmettre au travers de ce livre, parce que moi, je suis un humain comme tout le monde, donc je stresse aussi comme tout le monde. C'est pas parce qu'on écrit un livre sur le stress qu'on stresse moins que les autres. Mais j'ai compris que chaque fois que j'étais dans ces états-là, enfin, quand c'était un petit indicateur qui venait de m'indiquer que, oh là, Brigitte, t'es pas en train de réagir de façon fluide. Donc, quand j'arrive à prendre conscience que je suis sous stress, la toute première chose que je fais, c'est que je m'arrête, je commence par respirer, et déjà là, il y a une espèce de recul qui se fait. J'arrive à relativiser, j'arrive vraiment à prendre un peu de recul sur la situation que je suis en train de vivre. Et je peux me dire, ok, voyons ce qui se passe, voyons qu'est-ce que tu peux prendre comme décision, voyons les marges de manœuvre que tu as, à qui tu peux t'adresser, et je commence déjà à trouver des solutions. Donc c'est incroyable à quel point, dès qu'on prend conscience de son stress, on arrive à redevenir un humain intelligent. Et à quel point, quand on est sous stress, on est juste un humain qui réagissant de façon, comme si on était, on est dans un état d'urgence, mais on réagit sans faire appel à des parties fluides, à des parties fines de notre cerveau.
Oui. Ça me fait penser tout ça, Brigitte, au mode adaptatif. Vous en parlez beaucoup dans le livre Vivement lundi, comprendre le stress pour être heureux au travail. C'est un mode que l'on devrait mettre de l'avant, qui fait appel à notre sang-froid, à la réflexion, justement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus précisément de ce mode adaptatif-là?
Oui, alors pour l'expliquer très rapidement, je pourrais dire que toutes les situations qu'on vit dans la vie de tous les jours, on va les vivre de deux façons différentes. La première, on va les vivre en mode automatique, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, je réfléchis pas, je prends pas de recul, je suis très automatique. Et ce mode, il est très bien quand on a gérer des situations simples. Donc imaginons, là vous êtes en train de faire un interview, si tout se passe comme vous l'avez prévu et que vous maîtrisez, merci, votre mode automatique. Il va vous faire agir rapidement, mais sans devoir réinventer la roue, et c'est très bien. Et si maintenant, imaginons qu'il se passe quelque chose, il y a la fumée dans le studio, ou une coupure de téléphone, vous n'avez plus au téléphone, si vous restez en mode automatique, vous allez stresser. Parce que ce mode automatique, il n'est pas fait pour gérer la complexité. Si par contre vous basculez en mode adaptatif, d'abord vous allez commencer par vous dire, tiens, il y a un problème. Les choses ne se passent pas comme j'ai prévu. Puis vous allez vous tourner vers les gens autour de vous, vous allez être curieux, vous allez demander, tiens, qu'est-ce qui se passe? Vous allez peut-être faire un signe à un technicien. Et puis en tout cas, vous allez vous mettre en mode recherche de solutions. Et en fonction des moyens que vous avez, en fonction des gens qui sont autour de vous, vous prendrez des décisions diverses pour rétablir la communication ou voir ce qui se passe s'il y a de la fumée dans le studio. En tout cas, ce mode adaptatif, il va vous permettre de trouver des solutions en fonction d'abord de l'objectif que vous avez, qui pourrait être de continuer l'interview, et en fonction des moyens que vous avez. Alors que le mode automatique, il va nous faire rester dans un mode où vous allez vous dire, mais c'est pas possible, ça peut pas m'arriver maintenant, pas en plein direct, et non, c'est pas possible, il faut absolument que ce problème s'arrête. Ouais. Or, c'est pas en pensant comme ça qu'on va résoudre notre problème.
Brigitte, vous dites dans le livre que nous sommes un paquet d'habitudes, que l'on est sans cesse en train de changer. Donc, comment on peut basculer et peut-être peaufiner notre mode adaptatif?
Alors, basculer en mode adaptatif, c'est prendre l'habitude régulièrement de s'ouvrir d'abord, d'être curieux et d'être tourné vers l'extérieur. C'est prendre l'habitude aussi d'accepter de voir ce qui se passe, même si ce qui se passe n'est pas ce que nous avions voulu,
en tête,
ce que nous avions
anticipé.
C'est aussi nuancer, c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, ne pas être caricatural en disant c'est tout ou c'est rien, c'est blanc ou c'est noir, c'est vrai ou c'est faux. Parfois, il faut aller voir dans le détail. Vous voyez, s'il y a une panne, il peut y avoir une panne sur un problème, mais c'est pas tout qui est tombé en panne. Donc prendre l'habitude d'être nuancé. C'est relativiser aussi. Souvent, on a tendance à dire dans le travail, c'est la catastrophe, il n'y a plus rien qui va, c'est dramatique. Et puis, quand on prend un peu de recul, on se dit, bon, c'était pas si grave que ça, qu'il y ait cette panne ou que cette réunion soit annulée. Donc, vraiment pouvoir remettre les choses en perspective. Et puis, prendre l'habitude de réfléchir aussi et de pouvoir avoir une opinion personnelle. Une opinion personnelle, c'est cette capacité que l'on a, chacun de nous, de pouvoir s'extraire d'un groupe en disant, voilà ce que moi je pense de cette situation-là. Et plus vous allez prendre l'habitude donc d'agir en étant curieux, en prenant du recul, en nuançant, en étant dans l'opinion personnelle, plus vous irez utiliser cette partie adaptative de votre cerveau. Mm-hmm. Et donc, plus vous pourrez faire autre chose qu'être juste quelqu'un qui est dans l'automatique.
Oui. Bien sûr, au travail, Brigitte, on travaille, certaines personnes travaillent seules, hein, mais pour la plupart d'entre nous, nous avons des collègues. Et parfois, notre stress a des impacts sur la relation que l'on entretient avec ces gens-là. Comment on peut développer des solutions plus créatives pour ne pas se laisser prendre là, par le stress et que ça envenime nos relations?
À nouveau, j'ai envie de dire, c'est quand il se passe quelque chose de déplaisant, quand on sent le stress qui monte, la toute première chose, c'est prendre l'habitude de respirer. Mm-hmm. Et prendre une ou deux petites secondes en disant, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Mais je fais une analogie. Si vous êtes dans votre voiture et que tout d'un coup, il se passe quelque chose de pas normal, mais je vais vous conseiller de reprendre votre sang-froid. Et on reprend son sang-froid en s'asseyant, vous voyez, au milieu de son fauteuil, en respirant, en disant, OK, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que ma voiture est vraiment en train de déraper? Vous voyez, prendre une décision en se recalant et en se recentrant sur soi. Mais au travail, c'est pareil. Si on prend l'habitude de se recentrer et de prendre cette petite seconde ou ces petites secondes de respiration, déjà, on va basculer en mode adaptatif. C'est-à-dire qu'on va prendre les choses pas de façon émotionnelle et à bras-le-corps, on va les prendre avec beaucoup plus de sang-froid. Mmh. Et on le sait dans la vie. Dès qu'on arrive à relativiser, prendre un petit peu de recul, on redevient maître de nos décisions. Et donc, on augmente notre capacité à pouvoir trouver des solutions.
Oui. Vous parlez d'affronter à bras le corps et ça me fait penser au stress qui peut influencer parfois notre comportement. Vous en parlez dans le livre « Stress de lutte, de fuite, d'inhibition ». Fuir devant le stress, c'est peut-être pas toujours la meilleure idée. Il faudrait pouvoir le vivre ou l'affronter, Brigitte?
Réagir par le stress, c'est quelque chose de très bien. Si vous avez un ours qui est en train de vous courir derrière, là, franchement, un stress de fuite qui fait que vous allez prendre votre jambe à votre cou,
c'est un bon réflexe.
Mieux.
Oui, oui, oui.
C'est très, très utile. Par contre, au travail, réagir avec un stress de fuite, c'est-à-dire que vous prendre ses jambes à son cou parce qu'on vous demande de faire quelque chose qui vous fait peur, ben, c'est pas adapté. Mm-hmm. Donc un stress de fuite, c'est quelque chose qui est adapté quand il y a un danger réel pour notre survie. Mais c'est pas adapté si le danger n'est pas réel. C'est-à-dire que si dans l'immédiat, il vaut mieux réfléchir et prendre du recul. Donc dans les situations de travail aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit en Occident, en tout cas, on est très, très, très rarement dans des situations de risque, de danger, de mort immédiate. Mm-hmm. Donc le stress n'est pas tellement utile comme mode de gouvernance de nos décisions dans le travail. Il est beaucoup plus intéressant de réagir avec, sous la gouvernance, cette intelligence adaptative, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir embrasser un problème dans sa totalité, plutôt que de se laisser impacter par un petit morceau du problème.
Oui. Oui. Ce que je retiens de la lecture Vivement lundi, comprendre le stress pour être heureux au travail, c'est que l'humour et la créativité, ça peut vraiment nous aider à sortir de périodes de stress. Vous donnez comme exemple votre père qui était concessionnaire automobile et qui a vu toutes ses voitures ravagées par une tempête de grêle et qui finalement s'en est très bien sorti en faisant une publicité plutôt rigolote et les gens finalement se sont arrachés les voitures. C'est une façon, j'imagine, de s'en sortir, d'arriver à penser à des pistes un petit peu hors d'onde, hors piste, là, finalement.
Oui, parce que quand on est sous stress, moi j'ai raconté cette histoire parce qu'elle m'a permis de me rappeler à quel point, quand on est sous stress, on dramatise.
Ouais.
Et on va dire que la phrase classique, sous stress, on dit oui, mais tu te rends pas compte, c'est grave, je sais pas comment je vais m'en sortir et je vais plus pouvoir payer, je vais peut-être faire faillite. Alors que dès qu'on reprend la maîtrise de soi, on va dire, OK, c'est parce que c'est grave que j'ai intérêt à pas stresser. Et l'humour nous donne souvent... Alors, l'humour a sur soi, hein, c'est pas l'humour sur les autres. Parce que l'humour oui. sur les autres, c'est on peut se moquer des autres. Mais c'est l'humour sur soi peut nous permettre de prendre ce recul, justement, en disant, OK, c'est peut-être grave, mais on va essayer de pas dramatiser la situation. On va essayer de rester léger. Et souvent, en restant léger, et bon, on trouve d'autres solutions.
Oui.
Et on arrive à s'en sortir différemment.
Et on peut lire également votre livre, Brigitte Durruty.
Oui, pardon, j'ai pas compris.
On peut lire également votre livre pour trouver quelques pistes de solutions. Vivement lundi, comprendre le stress pour être heureux au travail. Vous savez, Brigitte, on n'a pas eu de problème, là, la ligne n'a pas coupé aujourd'hui, mais si ça avait été le cas, mon mode adaptatif aurait décidé d'aller vous rejoindre dans le sud-ouest de la France.
C'est bienvenue.
Brigitte Durruty, je rappelle, vous êtes formatrice et coach spécialisée et chez les Éditions de l'Homme, on peut se procurer Vivement lundi, comprendre le stress pour être heureux au travail. Merci beaucoup.
Merci Marianne et bonjour à tout le Québec.
Merci, au revoir.